Bonjour, c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, je vous propose de parler du remaniement et surtout des jeux de pouvoir qui se sont déroulés en coulisses. Seul le président de la République tranche le casting du gouvernement, mais autour de lui, on tente de faire basculer l'équilibre. Je pense notamment au Modem de François Bayrou et à Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Ses alliés ont tenté jusqu'à la dernière minute d'influer sur le choix du Premier ministre, mais ça s'est soldé par un échec. Pourquoi ? Voici une piste.
En coulisses, on pense déjà à cette date. C'est le cas d'Édouard Philippe.
C'est le cas d'Édouard Philippe, c'est le cas aussi de François Bayrou, c'est le cas en fait de beaucoup des cadres, des alliés historiques d'Emmanuel Macron. Donc la guerre de succession s'est ouverte et Emmanuel Macron a d'ores et déjà prévu d'y répondre à la guerre de succession. Il a une arme de dissuasion, c'est la guerre de mouvement, et mouvement ça rime avec quoi ? Remaniement. Donc pour l'instant Emmanuel Macron rappelle à tout le monde, je suis encore là pour 5 ans, n'oubliez pas qu'il y a un patron, qu'il est là et que c'est moi.
Vous venez d'entendre une archive RTL qui date d'avril 2022, Arthur Berda, le chef adjoint du service politique du Figaro, répondait aux questions d'Yves Calvi et c'est encore valable plusieurs années plus tard. Dans Le Parisien, François Bayrou a confié avoir émis des interrogations, je le cite, sur le choix du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Édouard Philippe a révélé, lui, qu'il souhaitait le maintien d'Elisabeth Borne. Est-ce que le groupe de la majorité présidentielle vit bien ? François Bayrou et Édouard Philippe sont-ils des alliés un petit peu trop pressants, trop exigeants peut-être ? Et sur quoi influent-ils auprès du chef de l'État ? Emmanuel Macron peut-il se passer d'eux ? C'est le sacré programme de cet épisode. Et pour nous dévoiler tous les coulisses de cette bataille politique, je suis accompagnée aujourd'hui d'Olivier Bost, le chef du service politique de RTL. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Tu présentes aussi le grand jury RTL, Le Figaro, M6 et Paris Première tous les dimanches à partir de midi. Et il y a aussi avec nous Thomas Després. Bonjour Thomas.
Salut Marie-Pierre.
Tu es journaliste politique à RTL et tu suis entre autres la majorité et Emmanuel Macron. Alors on a entendu beaucoup de rumeurs sur le fait qu'Édouard Philippe et François Bayrou ont tenté de bloquer la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Est-ce que c'est vrai ?
Ah bah c'est tout à fait vrai, parce qu'ils ont non seulement envoyé des messages explicites, parfois dans les médias, parfois avec des interviews. Par exemple, François Bayrou adore faire des interviews et venir, entre guillemets, s'inviter dans ces moments un petit peu chauds où les choses bougent au niveau du gouvernement ou au niveau des politiques suivies. François Bayrou, pour vous donner un exemple très très récent, le 17 décembre, il vient sur RTL faire un grand jury. À ce moment-là, il sent bien que les choses commencent à bouger. On est au moment de la loi immigration. Il y a bien évidemment la question du vote deux jours après, mais il vient pas seulement pour ça. Il vient aussi parce qu'il a très bien compris que s'ouvrait un nouveau cycle, comme disait l'entourage d'Emmanuel Macron, une nouvelle page et que les choses allaient bouger. Et dans ces moments tactiques, il fait des déclarations au public. Et puis après, c'est Thomas qui va très bien nous le raconter. Mais d'autre part, il répond beaucoup au téléphone. Édouard Philippe beaucoup moins, hein, je vous le dis, c'est assez plus par les entourages, mais il répond beaucoup au téléphone et puis il raconte et puis il influence.
Alors Édouard Philippe et François Bayrou n'ont pas réussi à imposer leur Premier ministre, mais il était aussi possible d'avoir plus de poids au sein du gouvernement, mais là aussi c'est raté. Seul un ministre Modem, Marc Fesneau qui est à l'agriculture, et deux ministres Horizon, Christophe Béchu à la transition écologique et Catherine Vautrin à la santé au travail, même si Catherine Vautrin a plus un passé de sarkozyste que de philippiste. Chiracienne, tout à fait. Pourquoi, Thomas, est-ce qu'ils ne sont pas plus représentés dans ce gouvernement ?
Eh ben, je suis pas d'accord avec vous. Je trouve qu'au final, ils sont très bien représentés dans ce
par
gouvernement.
Par rapport à leur poids.
Parce que finalement, sur 14 ministres, déjà deux pour un parti qui n'a qu'une trentaine de députés, Horizon, Édouard Philippe, un ministre du Modem pour un parti qui a plutôt une cinquantaine de députés,
oui,
le Modem.
Mais majorité relative.
Oui, mais c'est finalement pas si mal représenté. C'est d'ailleurs ce que m'ont confié certains au Modem qui ne comprenaient pas vraiment l'agacement de François Bayrou, parce que, comme souvent, vous savez, François Bayrou, il est persuadé, et c'est sans doute en partie vrai, que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 n'a été possible que parce qu'il s'est retiré de l'élection présidentielle. Il le rappelle régulièrement en disant « sans mon ralliement, Emmanuel Macron n'aurait pas été élu ». C'est-à-dire comme s'il y avait eu finalement un pacte entre eux qui les mènerait jusqu'à la fin de la présidence d'Emmanuel Macron. Donc François Bayrou, il a tendance à en demander toujours un petit peu plus. Mais là, le fait que Marc Fesneau soit resté ministre de l'Agriculture, ministre de plein exercice, et que Christophe Christophe Béchu soit resté ministre de plein exercice également de la transition écologique, eh ben à la fin, c'est pas si mal représenté, mais ce qui est évident, c'est que derrière, il faudra que sur les postes de ministre délégué, il continue d'être aussi bien représenté. C'est sur ça que François Bayrou est déjà en train de travailler.
La foire n'est pas terminée. Il faudra vraiment compter au moment où le gouvernement sera complété. Ça sera probablement la semaine prochaine. 10 ou 15 postes de plus de ministre délégué, peut-être de secrétaire d'État. Et c'est là qu'il faudra vraiment compter le nombre de représentants d'Horizon, le nombre de représentants du MoDem. C'est là qu'on va vraiment voir les équilibres politiques pour de vrai. Parce que pour l'instant, le début de la toute première équipe de Gabriel Attal, c'est plus la coloration de droite un peu générale, avec effectivement un peu teinté de sarkozisme, même si Nicolas Sarkozy n'a pas été à la manœuvre. C'est plus ça qui ressort qu'un affaiblissement réel, comme le disait Thomas, d'Horizon ou du MoDem.
Tu parlais, Olivier, de Gabriel Attal. Justement, Édouard Philippe connaît bien Gabriel Attal. Il a été le premier ministre d'Attal quand il était secrétaire d'État à la jeunesse. Et François Bayrou, lui, il avait fait part de son choix pour Matignon sur BFM TV. Écoutez.
Est-ce que donc, par exemple, quelqu'un comme Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, compagnon de route historique du président de la République qui avait fait le choix de quitter la vie politique en 2022 correspond à cette idée de dépassement?
En tout cas, c'est quelqu'un de très estimable et en phase avec cette idée. Il n'est pas le seul. Mais pour moi, là est la clé.
Olivier, François Bayrou, il entretient quelle relation avec Gabriel Attal? Ils sont pas proches. Attal ne fait pas du tout partie de son entourage, il ne le consulte pas spécialement.
Non, à ma connaissance, il n'y a pas de lien particulier entre les deux hommes, pas d'histoire commune. Gabriel Attal n'est pas dans une filiation politique. Il vient du PS, hein, 10 ans militant au Parti Socialiste. Et ensuite, dans ses premier pas au ministère de l'Éducation nationale, il a plutôt parlé à la droite et il n'a pas structurellement, c'est pas un représentant du centre, c'est pas un centriste en fait, Gabriel Attal. Il est plus difficile à définir politiquement que François Bayrou, il n'y a pas de lien évident.
En fait, François Bayrou, lui, son enjeu, c'est que le macronisme reste au centre, reste finalement dans ce qu'ils appellent l'espace central, c'est ce terme qu'ils utilisent régulièrement, qu'il soit ni des anciens des Républicains, ni des anciens du Parti Socialiste. Donc en ça, forcément, l'émergence d'un profil qui est marqué politiquement comme Gabriel Attal peut en soi le déranger, mais parmi les candidats qui étaient évoqués, Gabriel Attal, sa principale critique qui était faite, ce n'était pas qu'il était trop à droite ou trop à gauche, c'était éventuellement sa jeunesse, son inexpérience. Pour tout vous dire, il a quand même préféré que ce soit Gabriel Attal plutôt que ce ne soit Sébastien Lecornu qui lui a été lieutenant de Nicolas Sarkozy. Donc à vrai dire, c'est pas tant sur le profil politique de Gabriel Attal que sur sa jeunesse que ça a pu poser un problème à un moment à François Bayrou.
Et juste pour compléter, en fait, François Bayrou, lui, son obsession quelque part, c'est que le bloc central, effectivement, comme il le dit, survive au macronisme. Et donc il faut toujours avoir ça en tête quand François Bayrou parle. Et puis, il faut le dire, pour lui, à ses yeux en tout cas, le seul et vrai représentant du bloc central, ça reste lui.
Et pour parler d'Édouard Philippe, il y a un duel à distance qui commence à se jouer avec Gabriel Attal. Écoutez le récit de William Galibert pour RTL.
Et il y a quelques jours, devinez quoi ? Pour la toute première fois, Gabriel Attal a doublé Édouard Philippe en tête d'un sondage de popularité. Le duel sera inévitable, mais pour l'instant, personne ne bouge. On s'observe à bonne distance, mâchoire serrée, arme chargée et doigts sur la gâchette.
Édouard Philippe et Gabriel Attal.
William s'est fait plaisir.
Oui, le récit était vraiment bon. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le site de RTL.fr. Je vous conseille de l'écouter. Édouard Philippe et Gabriel Attal, ils se méfient l'un de l'autre.
C'est surtout Édouard Philippe qui est dans une position aujourd'hui compliquée, puisque lui, sa stratégie, c'était du long terme, c'était de ne pas bouger, de ne pas partir trop tôt. C'est vraiment d'être dans une logique du temps long. Alors que Gabriel Attal, lui, c'est totalement l'inverse. Alors bien évidemment, si vous posez aujourd'hui la question à Gabriel Attal, il pense absolument pas à 2027. Or, dans son entourage, 2027...
Il pense
et,
pour lui.
Et, non, mais il est évoqué. Hein, je veux dire, c'est même pas, il s'agit pas d'y penser. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont tous en tête. Et donc, il y a deux stratégies totalement différentes. Et c'est celle de Gabriel Attal qui vient percuter celle d'Édouard Philippe et pas l'inverse. Et le fait que les sondages bougent, ça chamboule totalement ce qui semblait être finalement un long chemin presque tranquille pour Édouard Philippe. Et ça ne sera pas le cas.
Pourquoi en avoir plus au sein du gouvernement? Est-ce que ça permettrait, par exemple, à François Bayrou et Édouard Philippe d'avoir des sortes d'espions, des personnes qui vont peser, qui vont essayer d'influencer Gabriel Attal ou Emmanuel Macron? C'est quoi l'intérêt pour eux d'avoir des ministres, des secrétaires d'État, des ministres être délégué ?
Bah, y a une question d'influence. Aujourd'hui, l'enjeu pour tout ce qu'on évoque depuis le début, c'est 2027. Et donc, le fait d'avoir des ministres permet d'être dans l'action, permet d'avoir un poids politique, d'afficher aussi quelque part, sinon une forme de bilan, en tout cas de pouvoir revendiquer un certain nombre de choses. Et puis, il ne faut pas oublier un autre jeu qui est important pour ces deux hommes, c'est l'Assemblée nationale. L'un comme l'autre, par, entre guillemets, les humeurs de leurs députés, peuvent faire ou défaire, on l'a vu au moment de la loi immigration, peuvent faire ou défaire aujourd'hui des votes, puisque nous sommes dans un contexte de majorité relative. Donc tout ça, c'est une question de poids et d'influence politique. Faut le prendre comme ça.
Et la situation de François Bayrou est quand même paradoxale. Il poussait pour l'arrivée de Julien de Normandie à Matignon, alors que lui-même, pourquoi pas, il vise ce poste.
Je suis assez préoccupé par la situation du pays pour vous dire que, oui, j'aurais aimé assumer ce rôle, cette mission et cette responsabilité. Mais je suis hors jeu.
C'était en juin 2023, dans l'émission Le Grand Jury. Je tente un peu cette question. Est-ce que l'option Bayrou, elle est définitivement hors jeu ?
Alors, jamais hors jeu, parce que franchement, la suite du quinquennat n'est vraiment, vraiment pas écrite. Qui aurait pu dire que Gabriel Attal serait Premier ministre en janvier 2024 ? Et qui peut dire, par exemple, en septembre 2024, après les élections européennes, après les JO, puisque par exemple Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, commence déjà à dire qu'après les JO, il aura fait son temps. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement de Gabriel Attal que nous avons aujourd'hui va peut-être durer 6 mois. Donc, franchement, il faut surtout pas l'exclure. D'autant qu'en plus, alors là, François Bayrou peut l'avoir mauvaise. Il faut se souvenir qu'en 2017, il est soupçonné d'emploi d'assistants parlementaires européens pour le MoDem. Et ses seuls soupçons de la justice lui ont valu de quitter le gouvernement. Il y a quelques jours, une ministre est entrée au gouvernement alors qu'elle est mise en examen, c'est Rachida Dati. Donc, tout peut se produire. Dans la suite, toutes les règles qui pouvaient exister sont finalement chamboulées les unes après les autres par Emmanuel Macron. Et on ne sait franchement pas comment va se terminer ce quinquennat. C'est-à-dire que ce qu'on sait, c'est que le pouvoir d'Emmanuel Macron, que décrivait Arthur Berda au début du podcast, va aller en déclinant.
Ça fait bien.
Puisqu'il ne peut pas se représenter. Va s'affaiblir. Donc toutes les hypothèses politiques sont ouvertes et possibles. On ne sait vraiment pas comment va se terminer le quinquennat.
Et pour revenir sur la séquence qu'on vient d'entendre, Olivier, c'était toi qui interviewais François Bayrou quand il a dit ça. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Enfin, c'est quand même étonnant de franchise de dire « pourquoi pas, j'aimerais être Premier ministre ». Tous ceux qui l'ont dit, on leur a généralement peu proposé le poste.
C'est un sujet très sensible pour François Bayrou parce que cette décision de justice qui sera rendue le mois prochain est pour lui une blessure profonde. Il considère que ça a quelque part ralenti sa carrière politique, que sa principale, sa plus proche dans son aventure politique est décédée à cause de ça, que ça l'a tué. Donc c'est vraiment une question très sensible et je pense qu'il y a une sincérité et une sensibilité exacerbée dès qu'il s'agit de cette question-là avec François Bayrou.
Pour revenir à Édouard Philippe, alors là, sa relation avec Emmanuel Macron n'est pas toujours évidente à comprendre. Julien Fautra nous faisait un point d'étape à l'antenne de RTL, c'était en décembre dernier.
Alors qu'Emmanuel Macron déclare qu'il lui reste 3 ans et demi de mandat, qu'il travaillera jusqu'au bout, à la même heure, dans une émission similaire, son ancien Premier ministre, en effet, Édouard Philippe, laisse entendre qu'il sera candidat à la présidentielle de 2027.
Je trouverais dommage de ne pas être prêt. Il faudrait criminel de ne pas être prêt même, compte tenu des enjeux.
S'il avait voulu brouiller le message du chef de l'État, il ne s'y serait pas pris autrement, sauf que pas du tout, me répond un proche. La participation à l'émission Quotidien était prévue de longue date. La concomitance était fortuite. Édouard Philippe a même appelé le président pour le prévenir.
Il y a quelques mois, on a consacré un épisode de Focus à Édouard Philippe et plus précisément à ce qu'il a en tête pour 2027. Et la journaliste Bérangère Bonte, qui a écrit une biographie sur lui, analysait la relation qu'il entretient avec Emmanuel Macron.
Tant qu'hommes, honnêtement, ils ne se sont pas vraiment trouvés, jamais vraiment trouvés pendant les 3 années de Matignon. Ça a fonctionné, honnêtement, probablement même mieux que ce que certains ont voulu dire, etc. Mais c'est pas des amis. Il lui a toujours été loyal. C'est pour le coup un trait de caractère assez fort. Et ce sera peut-être d'ailleurs un problème. Je dirais à un moment, il faut aussi, dans l'histoire de la Ve République, il faut aussi savoir s'émanciper pour pouvoir tenter sa carte personnelle.
Thomas, est-ce que Édouard Philippe a appelé Emmanuel Macron pour s'assurer d'avoir des ministres de son parti qui soient implantés au gouvernement ?
Je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron et Édouard
Philippe... On parlait de l'entourage tout à l'heure.
Voilà, je ne suis pas certain qu'Édouard Philippe se soit lui-même impliqué en prenant son téléphone pour aller discuter avec Emmanuel Macron pendant cette séquence. À vrai dire, je n'ai pas cette information-là, mais ce n'est pas vraiment dans le caractère d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, il n'est pas là pour venir peser au quotidien avec Emmanuel Macron dans les discussions. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a des députés, il y a un groupe de députés derrière qui, eux, permettent à Renaissance d'avoir la majorité absolue. Et donc, c'est comme ça, en fait, que la pression, elle se fait naturellement. Et il est certain que si Christophe Béchu avait été menacé lors du remaniement, ça ne se serait pas passé comme ça.
Là, on parle beaucoup du remaniement dans cet épisode, mais ce n'est pas la première fois que Édouard Philippe et François Bayrou tentent d'influer sur la politique d'Emmanuel Macron. François Bayrou avait même stoppé la candidature de Catherine Vautrin, qui devait être nommée Première ministre. Thomas, pourquoi ? Alors c'est un peu le fait d'armes de François Bayrou.
Alors ça, c'est un épisode qui est absolument exceptionnel. On est en mai 2022, Emmanuel Macron vient d'être élu président de la République. Jean Castex a fait savoir son envie de ne pas poursuivre à Matignon, alors que Emmanuel Macron aurait bien aimé finalement le prolonger un petit peu. Jean Castex a dit non, je veux que vous trouviez un autre Premier ministre. Et donc Emmanuel Macron se met à chercher un nouveau Premier ministre. Il a jeté son dévolu sur Catherine Vautrin, qui est une grande élue des territoires, une ancienne de l'UMP et des Républicains. Elle est à la tête de la métropole du Grand Reims. Et donc Catherine Vautrin est choisie. Emmanuel Macron l'invite à l'Élysée. Ils déjeunent ensemble sur la terrasse du palais de l'Élysée. Il lui dit, voilà, vous serez ma future Première ministre. Et il commence à discuter du casting. Il commence à chercher quel sera le directeur de cabinet, quels seront les différents ministres. Pour donner un détail supplémentaire, Catherine Vautrin est même présentée à Brigitte Macron, qui vient au moment du dessert et qui finalement, il commence à discuter. Il parle même de la décoration de Matignon, pour tout vous dire.
Donc elle est quasi adoubée.
Elle est quasiment adoubée. Et puis, on est un jeudi ou un vendredi, en fin de semaine. Et à ce moment-là, son nom commence à sortir dans la presse. Sont informés les très proches d'Emmanuel Macron, qui à l'origine viennent plutôt de la gauche. On peut imaginer de parler de François Bayrou, de Richard Ferrand, qui eux, en apprenant ça, vont retrouver des déclarations passées de Catherine Vautrin pour dire que Catherine Vautrin a été manifestante contre le mariage pour tous. Et à ce moment-là, il y a une levée de bouclier finalement de ces ténors. Et en l'espace d'un week-end, ils disent non, nous Catherine Vautrin, on n'en veut pas, on préfère Elisabeth Borne. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? On la connaît. Eh bien, c'est Elisabeth Borne qui est nommée et Catherine Vautrin qui, dans le week-end, est appelée. Bon, bah finalement, ce ne sera pas vous. Imaginez comment ça a dû être difficile pour elle. Et bon, finalement, elle a quand même pu accepter de revenir lors de ce remaniement.
En tant que ministre du Travail et de la Santé, oui.
Ouais, mais on l'a tellement raconté, cet épisode, qui est franchement pas à l'honneur d'Emmanuel Macron, qui a donné le sentiment de ne pas avoir, pour le coup, les pleins pouvoirs, alors que c'est son pouvoir exclusif de nommer un Premier ministre. Alors, on l'a tellement raconté que ça ne s'est pas produit deux fois, et qu'effectivement, l'histoire de Gabriel Attal, c'est l'histoire exactement inverse, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron s'est totalement affranchi, pour le coup, de François Bayrou, d'Édouard Philippe, d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, son second cerveau, comme on avait l'habitude de le décrire, en tout cas son plus proche collaborateur et à qui il raconte absolument tout. Il s'est fâché avec lui, il fallait quand même le faire. Et tous les autres entourages, influences, Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale notamment, tout cela n'ont pas eu gain de cause sur la nomination de Gabriel Attal. Ça, c'est un geste important politiquement. Et à retenir aussi.
Et pour donner aussi un autre élément sur le poids de François Bayrou, il avait aussi son avis sur la réforme des retraites. Il a dit « Rien n'a été clairement expliqué en avril 2023. On a quand même connu meilleur soutien. Est-ce que le Modem et Horizon, donc François Bayrou et Édouard Philippe, ont le pouvoir de compliquer la vie d'Emmanuel Macron ?»
Eh bien, on l'a vu avec Catherine Vautrin, c'est arrivé par le passé. On a tout de même l'impression qu'Emmanuel Macron a eu une sorte d'électrochoc avec la loi immigration sur toutes ces questions de loyauté que le chef de l'État a dit « Après tout, c'est moi le président, et si d'aucuns ne sont pas loyaux, eh bien qu'ils prennent leur distance. C'est comme ça qu'il va sacrifier un certain nombre de ministres, d'ailleurs, qui vont quitter le gouvernement. Et on a l'impression qu'il y a eu un tournant à la fin de l'année 2023, et que justement, là où François Bayrou Richard Ferrand ont voulu peser, ce qu'expliquait à l'instant Olivier. Cette fois-ci, Emmanuel Macron a dit le président, c'est moi et c'est moi qui décide.
Olivier, comment Emmanuel Macron vit tout ça? Quand tout sort dans la presse, quand on sait que François Bayrou et Édouard Philippe ne voulaient pas de Gabriel Attal, bah, lui, comment ça se passe en fait?
Alors, c'est un peu ambivalent. Emmanuel Macron joue un peu de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas le dernier pour finalement faire circuler des noms, pour donner ou livrer des informations à certains, puis voir comment ça circule et voir quelles sont les réactions. Et en même temps, pour reprendre l'expression du président de la République, en même temps, Emmanuel Macron n'aime pas du tout le fait que on puisse décrire ce qui amène à une décision. C'est quelque chose qui
avait... un peu le secret aussi.
Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui cultive le secret. Il l'avait même théorisé avant 2017. Il avait expliqué aux journalistes qu'il n'y avait aucune raison que nous ayons accès à un certain nombre d'informations, et notamment à tout ce qui construit la décision. Pour lui, ce qui est important, c'est la décision. C'est le fait qu'il a choisi de faire ça, et pourquoi il a choisi de le faire, et que ça soit expliqué, mais pas pourquoi il a fait ce choix. Et ça, c'est donc, si vous voulez, c'est un peu ambivalent parce que il joue de ce jeu médiatique et politique, et en même temps, il voudrait que tout reste secret. Ce qu'il a réussi, hein, en l'occurrence, puisque pour Gabriel Attal, il y a plein de noms qui ont circulé, des noms que Emmanuel Macron a prononcés, hein, avec un certain nombre de gens de son entourage. Et à la fin, il a réservé une surprise qui était la surprise du chef.
Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a les mains liées? Quand on parle de la majorité relative, on parlait du nombre de députés Modem, du nombre de députés Horizon, est-ce que, in fine, il a beau rester président de la République, mais il est obligé de composer avec eux?
Il a les mains liées par l'absence de majorité, plus aujourd'hui que par le comportement de ses partenaires. Ça donne un peu plus d'importance à ses partenaires, Horizon pour Édouard Philippe, le Modem pour François Bayrou, mais c'est surtout par ça qu'il est contraint, et ce qu'on voit depuis le début du quinquennat, c'est qu'Emmanuel Macron cherche à échapper à cette réalité, l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale, qui fait que quand il présente un projet de loi, que le gouvernement présente un projet de loi, il n'est pas adopté de manière mécanique si les oppositions ne sont pas d'accord. Et donc, il a cherché à plusieurs reprises à contourner en quelque sorte le Parlement par moment, notamment avec par exemple son Conseil national de la refondation, avec l'initiative à Saint-Denis où il a réuni tous les chefs de parti.
Chefs de parti, oui.
Et avec aussi ce qu'il avait appelé sa grande initiative.
Grand rendez-vous avec la nation.
Son grand rendez-vous avec la nation. Merci de retrouver le terme exact. Voilà, il cherche systématiquement à trouver des moyens d'animer le quinquennat autrement qu'en passant par l'Assemblée. Donc oui, il est contraint, mais plus par la situation politique globale que par seulement ses partenaires.
Et j'ai une dernière question pour tous les deux. Je reconnais qu'elle est un poil cynique. Est-ce qu'avec des alliés comme Édouard Philippe et François Bayrou, on peut dire qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des adversaires politiques?
Est-ce qu'on a beaucoup d'alliés, beaucoup d'amis quand on fait de la politique? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont encombrants, qu'ils pensent pas pour toujours la même chose, et donc qu'il faut faire avec. Mais après tout, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas tout à fait oublié non plus que François Bayrou a en partie contribué à son élection en 2017, et qu'Édouard Philippe, à côté, l'a accompagné sur une période où finalement tout se passait beaucoup mieux qu'aujourd'hui quand même.
Olivier Bost.
Il ne peut pas faire sans eux, il ne pourra pas faire sans eux jusqu'à la fin de son quinquennat. Et ce qui va être intéressant, je pense de loin le plus intéressant, en particulier avec Édouard Philippe, mais François Bayrou peut nous réserver aussi des surprises, c'est que quand Édouard Philippe disait « loyal mais libre », bien évidemment c'était le « mais libre » qu'il fallait retenir
entendre,
et qu'à un moment ou un autre, il va s'exprimer, cette liberté va s'exprimer de manière de plus en plus importante, et que ça va être valable pour tous ceux qui sont autour d'Emmanuel Macron. Il n'a pas d'amis, ça je suis tout à fait d'accord avec Thomas, c'est la règle générale en politique, et c'est d'autant plus valable pour Emmanuel Macron, qui a quand même un exercice du pouvoir assez solitaire. Et là en plus, le fait de ne pas pouvoir se représenter va ouvrir un moment où tous ses amis, avec des grosses guillemets, vont chercher à se différencier, parce que la grande difficulté pour succéder à Emmanuel Macron, c'est qu'il va falloir s'en distinguer. distinguer. Les Français ne vont pas voter une troisième fois pour Emmanuel Macron ou quelqu'un qui ressemblerait à Emmanuel Macron. Donc l'heure où il va falloir se différencier va avancer et c'est ce moment-là où là il y aura vraiment, vraiment plus d'amis.
Et on pense du coup à la stratégie de Gabriel Attal d'ici là. Merci beaucoup Olivier Bost, merci beaucoup Thomas Després. Pour cet épisode, j'étais accompagné de Sarah Kemacha, de Damien Biéchaud à la réalisation et de Quentin Baron aux archives. Vous pouvez écouter et noter tous les épisodes de Focus sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.